Catherine le matin. Que la mort ici se lève. Voici Maître François Vigeant.
Salut François.
Ça va bien?
Ben oui. As-tu déjà fait de la motoneige?
Une fois à Malartic.
OK.
Avec une amie et j'avais trouvé que ça allait bien vite.
Ben oui, ça va bien vite.
J'avais trouvé que c'était une activité qui... Mm-hmm. Je disais, il faut aimer aller sur un engin qui va assez rapidement,
ouais.
Qui est exposé.
C'est vrai.
Maintenant, moi, je suis toujours contre l'intervention du gouvernement qui veut toujours en faire plus pour assurer la sécurité des gens.
Mm-hmm.
Parce que il y a certaines activités qui comportent leur lot de dangers. Que vous fassiez de l'alpinisme, que vous faisiez... peu importe, il va en haut des quilles, là, ouais. Il y a un danger.
Mm-hmm.
Et la motoneige, c'en est un. Et j'ai toujours pensé que le gouvernement devrait laisser les gens libres du type de risque qu'ils sont prêts à assumer. Ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, cet accident-là, là, pour moi, là, ça atteint la limite qu'on peut pas dépasser.
Ouais.
Parce que je comprends rien dans cette histoire-là. OK? Premièrement, j'ai entendu à peu près toutes les entrevues possibles là-dessus que vous avez faites, là, d'ailleurs, depuis 5h30.
Ouais.
Il semble assez évident que l'histoire, là, c'est qu'il est en retard pour souper.
Ouais. Mm-hmm.
Puis ils ont vu de la lumière, ils savaient que c'était là, puis ils ont dit, regardez, on va sauver 3/4 d'heure, on va s'en aller là.
Exact.
Ça, c'est... on n'a pas toute la preuve.
Non,
là,
mais ça s'enligne pour être
date, ça.
Mais
à date, là, ouais. Ça ressemble en bateau à ça.
Oui.
OK?
Ouais.
Bon. Un guide qui vient de Montréal.
Mm-hmm.
Ça m'a sonné une cloche.
Oui.
OK? Parce que quand j'entends les autres intervenants, ils me disent, écoute, tout le monde sait qu'on va pas là.
Ah, c'est clair, mais François, puis avec raison, tu le sais, moi, c'est mon coin, là.
Ben oui.
Il y a du courant, ça gèle pas. Alors, c'est, pour les gens du coin, là, c'est clair que tu t'enlignes pas là.
Alors, comment est-ce qu'un guide qualifié pourrait emmener des gens, des touristes, les sortir d'une piste fédérée pour les envoyer à une place où ça gèle pas?
C'est pas.
Mais non, mais là, c'est impossible. Je veux dire, là, c'est parce que le guide avait pas d'idée ce qu'il faisait.
Ben, en fait, il peut avoir de l'expérience, mais visiblement, il était jamais allé dans ce coin-là.
C'est ce que je dis.
Voilà.
Alors, ce qui m'amène, et je ne connais presque rien à la motoneige, je viens de vous le dire,
mm-hmm.
mais ça m'amène à penser que peut-être que là, ça va prendre une réglementation parce que le guide qui fait de la motoneige à Saint-Sauveur, il est peut-être pas capable de guider de façon sécuritaire des gens dans le lac Saint-Jean.
Ouais.
Parce que là, c'est pas possible. Il y a des connaissances du guide qui écrivent puis qui disent ça fait 20 ans qu'il est guide. Il connaît ça.
Mm.
Il a quand même été engagé par des Européens. Alors, il fait partie d'un mouvement qui est quand même articulé, là.
Oui, absolument.
Bon, structuré.
Ouais.
Bon, alors, moi qui est systématiquement contre, vous savez, l'État maternel, là, puis l'État qui dit, ah, ben là, on va faire ça comme ça pour pas que personne se blesse, pis etc. Parce que la motoneige, c'est une activité, c'est un sport.
Mm.
Où les gens vont perdre la vie. Ça, ouais. tu ne pourras pas éviter ça. Parce que, bon, il y a la question de la vitesse. Les machines
ouais.
vont de plus en plus vite.
Absolument.
Là. Ouais. Bon, tu es exposé complètement. Là.
Ouais, oui.
Troisièmement, une affaire qui m'a toujours bien surpris, moi, c'est que les gens font la nuit. Le soir, la
ouais.
nuit,
ouais.
quand il n'y a pas de lumière.
On en vaut
bon,
beaucoup.
Là, ouais. je ne suis pas un spécialiste. J'imagine que l'engin lui-même éclaire correctement.
Ouais.
Mais ça doit être comme en auto. Là. T'as pas la même vision.
Mais non, mais non.
La nuit que le jour.
Moi, là, François, évidemment, comme je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'en ai fait de la motoneige dans ma vie. J'ai embarqué. Et je vais te dire que de soir, là, c'est pas moi qui conduisais, puis j'ai pas tant aimé ça. Parce que je trouvais, ben, tu vois en avant les lumières, oui, mais c'est comme tu dis, c'est comme en voiture. J'étais pas top confortable.
Alors, pour une rare fois, parce que ça, internationalement, ces accidents-là, là, c'est vraiment pas bon.
Non.
Parce que vous avez quoi, 30 000 personnes à peu près, là, c'est gigantesque.
30 000 touristes qui viennent en faire chez oui. nous à chaque année.
Et un motoneigiste, ça dépense pas mal d'argent.
Oui.
Alors, c'est un bon touriste, et non seulement ça, mais il va dans des régions extérieures de celles où le tourisme se concentre.
Oui.
Alors, t'en fais pas au centre-ville de Québec.
Non.
Puis t'en fais pas sans Rupil non plus à Montréal.
Non, c'est tranquille.
Alors, en plus d'être un tourisme intéressant, mm-hmm. c'est un tourisme qui a lieu à des endroits qui te permettent de diversifier ton offre.
Oui, puis c'est des touristes qui ont de l'argent pour la plupart, qui vont dépenser. Et oui.
Oui, mais tu comprends que si eux autres, là, les touristes, là, ils ont acheté un forfait d'un grossiste en Europe, là, ce grossiste-là, il est en faillite. Là. Ce que je veux dire, c'est que les poursuites judiciaires, évidemment, vont emporter toute l'affaire, puis ils vont possiblement dépasser les limites de couverture.
Ben, j'ai hâte de voir. Là, l'entreprise responsable du voyage, là, il s'appelle Aventure 3000. Mm-hmm. Alors, évidemment, hier, ils se sont gardés une réserve sur leurs commentaires. Là. Le propriétaire s'appelle Patrick Denis. J'ai hâte de voir.
Mais moi, je connais pas les faits de la cause, alors je donnerai pas une opinion sur ce qui va arriver ou ça, mais c'est juste que quand il y a plusieurs personnes qui meurent dans ces conditions-là, on peut penser qu'il va y avoir des poursuites judiciaires.
Ça se pourrait.
Bon, alors, je laisse la motoneige et je m'en vais au cas de Jean Charest.
OK.
Sans surprise en ce qui me concerne, Charest a décidé de ne plus se présenter.
Oui.
D'après moi, il y a un peu du pack là-dedans.
Parce que oui.
Et deuxièmement, Luc Lavoie, un des collaborateurs de notre
De notre Bernard réseau, Drainville le midi, oui. Mm-hmm.
Exact.
Ouais.
A dit quelque chose d'absolument étonnant, et Lavoie est le gars le mieux plugué du Canada, je pense, dans le Parti conservateur.
Oui.
Il a dit que quand Jean Charest a appelé Stephen Harper pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de sa candidature, Harper lui aurait dit non seulement je l'appuierai pas ta candidature, mais si tu te présentes, je vais tout faire ce que je peux pour que tu sois battu.
Absolument, on l'a fait jouer la semaine dernière.
Ah oui.
Et l'information a été confirmée par Newsweek aussi. Alors, oui.
Ça veut dire que t'es mal parti.
Mettons.
OK. Bon. Après ça, il y a un point sur lequel Charest a pas tort. C'est l'interminable enquête de l'UPAC. M'assurer. Ça, 6 ans pour une enquête.
Ouais.
Et Jean Charest, c'est pas le champion de l'éthique, là. Sauf que il y a pas l'ombre de la moitié du corps d'une preuve qu'a participé à un acte criminel. Là. Zéro.
Mm-hmm.
Même dans les déclarations assermentées qui ont été rendues publiques relativement à l'enquête sur Bibeau, son collecteur de fonds, il y a zéro sur Jean Charest.
Ouais.
Zéro pis de barre.
Oui, absolument.
Ah bon. Et de déduire que si Bibeau procédait à des actes illégaux, Charest le savait, moi, je suis en complet désaccord avec ça. Il n'y a rien qui prouve que si Bibeau a agi illégalement, qu'il est allé voir Charest pour lui dire « Hey, sais-tu quoi, Jean, je vais te dire là, comment je m'organise pour ramasser l'argent. »
Ben, en fait, parce qu'il n'y a pas de preuve. On peut penser que, mais rien ne le prouve.
Non, effectivement, mais moi, je suis même pas porté à penser
non?
ça.
Ah non? OK.
Non, je pense que Charest est un gars trop prudent et que Bibeau, de toute façon, aurait isolé son ami.
Mais donc,
alors,
Bibeau
je ne crois pas
ça,
qu'il l'aurait dit. Il agissait avec d'autres collecteurs de fonds, dont le degré de moralité est discutable aussi.
OK.
Alors, vous savez qu'il y a eu des enquêtes... Hein, à Québec, alors il y a des noms qui ont circulé.
Oui.
Alors bon, Fava, etc. Là, bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait au juste, etc. Dans le cas de Bibeau, on ne saura jamais vraiment pour deux raisons. Bibeau n'a pas témoigné à la commission Charbonneau. C'est la raison pour laquelle il ne témoignait pas, c'est que s'il le forçait à témoigner devant la commission, ça devenait impossible de l'accuser.
Ouais.
Parce qu'une personne qui est obligée de répondre à des questions, une enquête, ben la preuve que tu accumules contre lui, elle contamine le reste de la preuve, et à ce moment-là, tu peux plus accuser la personne, parce qu'il est obligé de s'incriminer lui-même.
Ouais.
Alors, à l'époque, ce qu'on nous avait dit, c'est on fera pas témoigner Bibeau au cas où il sera accusé, mais là, c'est parce qu'il n'a pas témoigné, puis il sera pas accusé. Bon, et une des défenses de Bibeau, évidemment, c'est de dire... Ben, c'est sûr que les films d'ingénieurs disent que je les ai menacés parce qu'ils disent ça pour se protéger, pour expliquer pourquoi ils ont donné l'argent. Bon, alors, c'est en train de virer un autre boudin. Et un autre sujet qui va falloir toucher un jour, c'est l'avenir de l'UPAC.
Ah ben c'est clair. Mais as-tu lu Antoine Robitaille ce matin dans le Journal de Montréal?
Non, je n'ai pas lu.
Il dit ceci, si tu me permets, François, ben oui. Je trouve ça intéressant. Il dit, toujours à l'époque, les libéraux rappelaient un principe cardinal. Les politiciens ne devaient surtout pas se mêler des enquêtes policières. Il dit, aujourd'hui, un ancien premier ministre, donc Jean Charest, et un actuel leader parlementaire, il était beaucoup question de Marc Tanguay, il dit, Marc Tanguay veulent se mettre, au contraire, les mains dedans. Il dit, des interventions qui ont même forcé le nouveau patron de l'UPAC, Frédéric Gaudreau, à publier hier un communiqué afin de rappeler que son unité est récemment devenue un corps de police auquel la loi accorde une indépendance. Le patron de l'UPAC est désormais nommé par l'Assemblée nationale et non plus par le gouvernement. Il dit, voilà qui diffère précisément de l'époque où Jean Charest multipliait les expédients pour s'éviter de déclencher une enquête publique, l'escouade Marteau, donc les changements législatifs, unité anti-collusion dont M. Charest avait admis ne pas avoir lu le rapport, l'unité permanente anti-corruption. La création de cette dernière unité a été confiée unilatéralement par le gouvernement Charest à Robert Lafrenière, qui avait entre autres été sous-ministre de Jacques Dupuis et de Robert Dutille. Donc le verre était dans la pomme d'une certaine manière. C'est intéressant, par exemple, parce que bien que les choses ont quand même changé, est-ce que, bon, on n'a toujours pas plus de résultats, mais je comprenais l'intervention de M. Gaudreau hier de l'UPAC en disant, écoutez, là, aujourd'hui, on est considéré comme un corps de police indépendant. Penses-tu que ça peut faire une différence?
Oui, ça peut faire une différence.
Oui.
Maintenant, si on change les enquêteurs tous les 6 mois, puis que ton dossier passe 3 fois de main.
Non, c'est sûr.
En 3 ans, ben, tu y arriveras pas.
Non, je suis bien d'accord.
Alors, on va le voir. Alors, en attendant, mais ça va être le couronnement de Peter McKay.
Ah ben, carrément, là, Ron Ambrose, il va pas. Il reste là, il en reste 2 fois.
McKay, plusieurs s'en rappellent pas, mais il a déjà été chef du parti.
C'est vrai, t'as raison.
Et ça avait pas été un succès.
Non, rappelons-le.
Ça avait été, écoutez, lui, il avait succédé à Joe Clark, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Et il avait comme sabordé le parti qui s'était à l'époque fusionné avec The Canadian Alliance, là, parce qu'ils avaient fondu dans les sondages.
C'est vrai.
Alors, je voudrais juste rappeler aux conservateurs, vous n'êtes pas sortis de l'auberge.
Ah, c'est clair. Allez, juste en terminant, François, j'invite les auditeurs à aller voir la caricature d'Y, tout juste au-dessus de la chronique d'Antoine Robitaille. Là, c'est du bonbon. On voit Jean Charest avec son costume du Parti conservateur là, qui se fait lancer des tomates. Puis là, on voit des gens du Parti conservateur avec le champagne, puis on prend un verre, puis on a l'air festif. Et c'est marqué « Veuillez montrer patte blanche ». Là, il y a une barrière. Là, M. Charest retourne de bord avec ses tomates dans le dos. Mais il dit « Mais avouez que ça aurait été divertissant. » Je trouve que ça dit tout. Jean Charest dans la campagne, ça change pas mal de choses.
Ça aurait changé beaucoup de choses pour Trudeau. On reviendra une autre fois.
Il y a ça aussi. Hey, François, bon week-end à lundi. Bye-bye. François Vigeant, du lundi au jeudi, 7h15. Toujours bien le fun à jaser avec lui.